Bonsoir Patricia.
Bonsoir David. Bonsoir à tous. Un taux de chômage à 2%, voire moins en France dans les années à venir. Une utopie? Absolument pas. Selon croit Thibaut Prébé, le directeur général adjoint de Financière Arbevel, invité des chambres consulaires de Sévrien en début de semaine. Mais cela ne se fera pas sans conséquence. L'agglomération du Bocage-Bressurène présente ses voeux également par le biais d'une vidéo. L'occasion de revenir sur une année 2021 marquée par la crise sanitaire et d'évoquer les projets 2022 qui ne verra pas une nouvelle fois la réouverture du Val-de-Scie à Neuilly-les-Aubiers. Le recensement débute demain. L'INSEE, via les agents recenseurs recrutés par les communes, va collecter des données très utiles et pas seulement pour les collectivités. Les nuits de la lecture cette fin de semaine. Cette opération nationale est relayée dans le Bocage-Bressurée par les bibliothèques de l'Aglo de B.
Météo à l'issue du journal, éclaircie et temps sec au programme de demain jeudi. Nouvelle manifestation demain dans l'éducation nationale.
Après la mobilisation des enseignants et personnels de l'éducation nationale il y a une semaine, la FSU, FO et la CGT appellent à nouveau à un rassemblement devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale, avenue de Limoges à Niort, demain à 18h. À Thouars aussi, un appel à la mobilisation est lancé avec deux rendez-vous. Les assistantes d'éducation et les accompagnantes d'élèves en situation de handicap se rassembleront place Lavaux à 10h, puis en soirée à 18h devant l'inspection académique de Thouars. Les enseignants, parents d'élèves et élèves se sont donné rendez-vous pour manifester leur mécontentement devant les protocoles sanitaires du ministre Jean-Michel Blanquer. Des opérations soutenues par la députée de Sivrienne Delphine Bateau, pour qui, je cite, les annonces faites jeudi dernier par le gouvernement souffrent d'un déficit de crédibilité au regard des défaillances répétées dans la gestion de la pandémie à l'école, des protocoles qui changent régulièrement avec ordre et contre-ordre, sans écoute du terrain. Delphine Bateau en appelle, elle aussi, à la démission du ministre de l'Éducation nationale. L'école privée Saint-Laurent de la Chapelle Saint-Laurent fermée pour cause de Covid depuis lundi soir. Ces derniers jours, les cas positifs se sont multipliés au sein de l'établissement et les 180 élèves ont été invités à rester à la maison. Ils ne retrouveront leur école que lundi prochain.
Les vœux communs des trois chambres consulaires des Deux-Sèvres en début de semaine.
Et c'est par visio que les présidents des chambres de commerce et d'industrie, des métiers et de l'agriculture ont présenté leurs vœux pour 2022 avec un intervenant de marque, Thibaut Prébé, le directeur général adjoint de Financière Arbevel, société experte dans l'analyse des grandes tendances. Pour ce dernier, la démographie est l'élément essentiel à prendre en compte, notamment au sujet du chômage, qui, prédit-il, va tomber dans les prochaines années en France à 2%, voire moins. Thibaut Prébé.
On voit aujourd'hui qu'il y a un débat qui se fait sur le taux de chômage. On a un taux de chômage très élevé en France. Il a baissé et au gré des problématiques de financement de la Sécu, on a des prévisions qui sont faites par les gouvernements qui tablent à peu près comme toujours d'ailleurs sur un chômage à 7%. Moi, je vous prends le pari que le taux de chômage en France dans les années à venir va tomber à 2%, 2% maximum. Je vais vous dire pourquoi. Quand on fait un petit retour sur le chômage, il faut partir d'un principe simple, encore une fois, le chômage dépend de la natalité. On a un baby-boom à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Qui dit baby-boom ? Dit pléthore d'arrivants sur le marché de l'emploi dans les années 70-80, à un moment où il y a peu de partants, d'où le chômage de masse, qui n'est pas dû à un problème politique, mais à un problème purement démographique. On arrive 2015, et là encore, sans aucun rapport avec la présidence d'Emmanuel Macron, on a tous les baby-boomers qui partent massivement à la retraite. Taux de chômage qui commence à baisser, et qui d'après nous, va s'effondrer dans les années à venir. Et au fil du moment où il va s'effondrer, va se poser une question, comment on va faire pour produire plus avec moins de main-d'œuvre disponible? Et dans ce cadre-là, on va à nouveau avoir besoin de la robotique, de l'innovation. Le logiciel de nos politiques, qui consiste toujours à essayer de parler de comment on crée des emplois, va probablement se trouver relativement vite périmé, puisque le sujet ne sera plus de savoir comment on crée des emplois, mais le sujet sera beaucoup plus de savoir comment on fait plus avec moins d'emplois.
Thibaut Prébé, directeur général adjoint de Financière Arbevel, invité en début de semaine des trois chambres consulaires de Sévrienne à l'occasion de leurs vœux pour 2022.
Pas de cérémonie de vœux par contre, avocat Paul, cette année encore pour le président de l'agglomération du Bocage-Bressurée.
Et faute de Covid, bien évidemment. Alors, comme bon nombre d'élus, c'est par une vidéo en ligne dès demain jeudi que Pierre Marolo est revenu sur une année 2021 toujours marquée par la crise sanitaire et ses conséquences sur les services de l'agglo. Entouré de son directeur général, le président n'a pas manqué de saluer le travail des agents qui ont assuré une continuité des services. Une agglomération de services, pour reprendre les mots du président, qui a vu ses recettes diminuer du fait même d'une fréquentation à la baisse de la population. Exemple, avec les piscines, 260 000 usagers en 2021 contre 400 000 en période d'activité normale. Pour pallier le déficit, la subvention d'équilibre sera de l'ordre d'1 500 000 euros. Et puis, Puisqu'on parle d'eau, le parc aquatique du Val de Sienne et des Aubiers, qui n'avait pas pu ouvrir l'an passé, après la fuite d'eau du liner, n'ouvrira pas non plus en 2022, si certains élus envisageaient même de laisser tomber cet équipement de Nuit-Aubré, qui a coûté 3 900 000 euros. C'est désormais la recherche de solutions pour un meilleur fonctionnement qui prime. Pierre Imarolo, au micro colline de Jacqueline Pinon.
On espère quand même le rouvrir en 2023, mais ça va être une question de calendrier. En tout cas, moi, je vois pas abandonner ce qui n'est pas un projet, qui est une réalisation, avec les déboires que l'on a connus. Les responsabilités, aujourd'hui, on les connaît, hein, surtout entre autres l'installateur du liner. Les experts sont tous d'accord là-dessus. On devrait savoir en avril la somme de dédommagement que l'on va avoir, mais ça nous empêche pas, dans le même temps, de travailler à ce que va devenir la partie baignade. C'est pour ça que les vice-présidents qui suivent ce dossier sont allés à Chambord voir la même installation où il y a eu le même genre de problème. Et c'est un travail qui va se mener là dans les prochains mois avant qu'on prenne une décision. On a utilisé notre droit à l'erreur, qui nous coûte cher, faut le reconnaître. On va pas se voiler la face, hein. On n'aura pas le droit à une deuxième erreur. Donc voilà, il va falloir être très très vigilant. On s'est entouré d'un vrai spécialiste, donc à nous de voir comment on va mener ce projet de réhabilitation.
2021 aura par ailleurs été marqué par des investissements importants. On pense notamment à la Cité des Jeunesses et des Métiers à Bressuire, à l'abbaye de Mauléon ou encore à la nouvelle bibliothèque de l'Apsi. Côté projet 2022, l'opération Aglo Rénove avec la mise en place d'aides financières pour la rénovation des maisons en cœur de bourg et de ville sera une opération importante. Nous en reparlerons. Pierre Imarolo n'a pas oublié de parler de développement économique avec un investissement de 3 700 000 euros sur 3 ans sur les zones d'activité de Bressuire, Montcoutant-sur-Sèvre et Mauléon principalement. Quant aux travaux du futur centre régional de tennis de Bressuire, 4 millions d'euros hors taxes, il pourrait démarrer en fin d'année si les subventions demandées, pratiquement 2 millions, sont obtenues, précise le président de l'agglo. Enfin, le PLUI, gros chantier de l'agglo, est désormais opposable à la population depuis le 3 janvier dernier.
Le recensement débute demain.
Jusqu'au samedi 19 février dans les communes de moins de 10 000 habitants, jusqu'au samedi 26 février dans les communes de 10 000 habitants ou plus. Le recensement permet en premier lieu d'établir les populations officielles, mais il permet également de recueillir une foule de données très utiles. Christine Védrenne est responsable de division recensement à l'INSEE.
On permet également d'actualiser les informations sociodémographiques à tous les échelons géographiques. Par exemple, pour l'État et les collectivités locales, ça permet de définir les politiques d'aménagement du territoire, d'emploi en faveur de toute la population, d'où la nécessité, bien entendu, de connaître les caractéristiques de population et des logements. Pour les acteurs privés, comme par exemple les entreprises, ça va leur permettre d'étudier des projets d'implantation, par exemple l'implantation d'un hypermarché. Le recensement est utile également aux associations, aux chercheurs, aux étudiants. Donc en fait, il est utile à toute la population en général.
64 communes sont concernées en Deux-Sèvres par ce recensement 2022, qui est en fait un rattrapage, comme l'explique Daniel Brondel, directeur régional de l'INSEE en Nouvelle-Aquitaine.
Il s'agit cette année du report de l'enquête initialement prévue l'an dernier, qui n'avait pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Alors cette année, la crise sanitaire est toujours là, malheureusement, mais les conditions sont très différentes, hein, et les modes de collecte qui privilégient plus que jamais la réponse par Internet permettront le déroulement de l'enquête en toute sécurité.
L'INSEE se veut donc rassurante avant ce recensement, s'éloigne en principe de contact humain. Cette année, crise sanitaire oblige, les dispositions sont prises pour garantir une certaine sécurité. Les précisions de Véronique Descrêts, responsable de la division recensement.
Pour garantir la sécurité sanitaire de tous les acteurs, que ce soit les agents recenseurs, mais aussi la population recensée, il convient de respecter scrupuleusement les gestes barrières. Les agents recenseurs n'auront pas le droit de pénétrer au sein des foyers, afin de ne pas risquer de contaminer des personnes vulnérables. Et ils proposeront partout où c'est possible d'utiliser la réponse par Internet. C'est le meilleur moyen donc de réduire les contacts. Si les personnes veulent utiliser les documents papier, donc un protocole a été prévu pour réduire encore plus les contacts. Il conviendra de déposer les notices dans les boîtes aux lettres. Et si les ménages ont besoin d'aide, en particulier des personnes âgées, il est possible d'aider à distance, donc soit en parlant à 2 mètres de distance sans entrer dans le domicile pour aider à remplir le questionnaire, soit en prenant un rendez-vous téléphonique pour aider les personnes.
Le recensement est une obligation, ce n'est pas une option ou un simple questionnaire pour lesquels nous sommes parfois sollicités. Sachez que ne pas vouloir y participer peut vous exposer à des amendes.
La 6e édition des Nuits de la Lecture pour cette fin de semaine.
Le thème de cette année s'articule autour de l'injonction de Victor Hugo, aimons toujours, aimons encore. Partout en France, des animations seront organisées, médiathèques, librairies, musées, établissements scolaires, etc. se sont emparés de ce thème évocateur. En Nord de Sèvres, l'opération est relayée vendredi et samedi prochain par le réseau des bibliothèques de l'Aglo de Bé. Marie Jarry en est la vice-présidente en charge de la culture.
Nous participons à ce mouvement national depuis maintenant 4 ans, je crois, et c'est très stimulant pour les équipes. D'abord, on bénéficie d'un moment très particulier où on est lisible ou visible, et puis aussi on profite de la communication à l'échelle nationale qui est donnée autour de ce moment.
Un moment particulier parce que vous voulez justement que les personnes se retrouvent entre elles, parce que la consommation peut changer avec la crise sanitaire.
Oui, on remarque que désormais, les gens ont repris une pratique qu'on voyait il y a quelques années, à savoir ils commandent leurs livres, ils viennent les chercher, ils repartent. Alors qu'on avait réussi à instaurer dans les bibliothèques des lieux de vie où les gens aimaient à rester, aimaient à lire sur place, passer du temps. Donc on se rend compte que la fréquentation est toujours aussi importante, elle est même développée, mais elle est différente. Et pour nous, c'est important, quand je dis nous, ce sont les équipes, de partager à nouveau des moments particuliers avec les lecteurs.
Côté animation sur le territoire de l'Aglo de Bé à l'occasion de ces nuits de la lecture, même si certaines ont dû être annulées pour les raisons que vous imaginez, nous retiendrons ces lectures en pyjama pour les tout-petits jusqu'à 3 ans à Montcouton-sur-Sèvre, samedi à partir de 17h30. À Nueil-les-Aubiers, ce sont des séances de lecture autour des métiers qui seront proposées également samedi, la veille, vendredi, à l'occasion du premier anniversaire de la bibliothèque de l'APSI. Tout un chacun est invité à échanger sur ses propres lectures. Mais le temps fort se déroulera en parallèle, donc vendredi soir, à Moléon. Écoutez Florence Simon, responsable de la médiathèque de Bressuire et de l'action culturelle sur le réseau, et Brigitte Grolot, directrice de réseau des bibliothèques de l'Aglo de Bé.
On pourrait peut-être parler de ce qui se passe et ce qui va se passer à Boléon, puisque c'est un joli partenariat entre le musée, l'office du tourisme, la médiathèque et la participation de l'ARCUP, avec des moments du conte traditionnel, des moments de visite commentée portée par le musée, et puis aussi à la médiathèque la sortie de nouveaux jeux de plateau qui demandent un temps plus long et qui donc se prêtaient bien à cette nuit de la lecture.
Certains rendez-vous ont dû être annulés à votre plus grand regret?
Oui, alors nous avions des moments très participatifs, par exemple du tricot où on voulait que les gens se montrent eux-mêmes comment tricoter, donc échanger des pelotes, des aiguilles, avec les règles de sécurité, c'était pas possible. Et puis nous faisions appel aussi à des organismes extérieurs comme les ludothèques pour venir animer chez nous. Étant donné qu'on a senti une certaine frilosité dans les inscriptions, on a préféré reporter à d'autres moments pour qu'on puisse avoir plus de monde à des choses plus exceptionnelles que nous offrions.
Toutes les infos sur ces nuits de la lecture en Bocage-Bressuret sont sur le site de l'Aglo de Bé. Sachez que depuis la gratuité instaurée en 2019, le nombre d'inscrits aux bibliothèques du réseau est passé de 7 500 à 12 000 avant un sérieux coup de frein en période de confinement, avant de repartir à la hausse puisqu'ils sont aujourd'hui un peu plus de 13 000. Ces nuits de la lecture sont également relayées sur le territoire de l'Aglo du Niortais dès demain et jusqu'à samedi au travers de son réseau de médiathèques. Petits et grands auront l'embarras du choix en termes d'animation durant ces 3 jours, à Niort bien entendu, mais également à Échiré, Frontenay-Rouen-Rouen ou encore Mauzé-sur-le-Mignon. Détail complet du programme sur le site nioraglo.fr.
Dans l'actu sportive ce soir,
Celles-sur-Belle enchaîne son 3e match en 8 jours ce soir à Besançon. Solide équipe de LFH qui occupe la 6e place. Les handballeuses celloises doivent enrayer une série négative en accrochant les Byzantines. Ce sera sans Perrine Petiot ni Laura Porte, forfait sur blessure.